2 Corinthiens, chapitre 6. Je vous invite à prendre votre Bible. Alors que vous avez ici un titre avec un pléonasme. Un ministère de service percutant. Un service de service percutant. Un ministère de ministère percutant. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous, on alterne le mot ministère et service, et des fois de manière distinctive, mais en réalité, c'est la même idée. Puis quand on voit le mot ministère, souvent le service dans le Nouveau Testament, c'est souvent le mot diaconat, duquel on a le mot, le titre diaconat, mais qui est utilisé comme étant un mot très commun dans le Nouveau Testament, en parlant de Paul, qui est le diaconos, pourtant, c'est un apôtre, mais il est un serviteur de l'Éternel, un diaconos. Et l'idée d'un diaconos, c'est quelqu'un qui, dans son service, il bouge tellement que ça fait de la poussière en arrière de lui. Il est dans le mouvement. Et c'est pas lié à un homme, à une femme. Les deux sont appelés à servir le Seigneur. Et quand on parle d'un ministère, ben c'est ça qu'on parle, un service. Mais des fois, on distingue le mot ministère. Ah, mon ministère. Ah, le ministère de tel pasteur ou le ministère de tel apôtre ou de telle personne. Le mot ministère, c'est service, tout simplement. Et j'ai voulu les mettre, les deux, ici, en pléonasme et intentionnellement. Parce que des fois, on peut faire une différence entre les deux. Et tout à coup, le ministère, il est quelque chose en lui-même. Il n'est plus juste un service. C'est mon identité, c'est mon moi, c'est ma valeur. Et ce n'est pas juste un service. On est appelé au ministère de la réconciliation, il a dit au chapitre 5, verset 18 du chapitre précédent. C'est notre contexte, là. Il vient de parler d'être ambassadeur. On a un ministère de réconciliation. On a été réconciliés avec Christ. Et là, on est des ambassadeurs qui maintenant amenons un ministère, un diaconat, un service de réconciliation auprès de la population autour de nous. C'est ce qui a amené Paul à Corinthe. Puis il dit, c'est ce que je vous invite à vivre. Mais le ministère n'a pas été évalué en fonction de nos critères modernes de réussite. D'apparence de réussite, du moins. En fonction de la performance, en fonction du nombre, de la grandeur, le faire, puis tout ce qu'on réussit. On est beaucoup là-dedans. Moi, le premier à être en train de lutter continuellement dans l'accomplissement, le sentiment d'accomplissement, de réussir, de faire quelque chose. Et pourtant, ce n'est pas ce que Paul nous décrit ici du tout, de ce que c'est le ministère. Et il va nous décrire, sans que ce soit son but initialement, en train de montrer son ministère au peuple, à Corinthe, qui attaque, des gens qui attaquent son ministère, qui met en doute parce que, justement, il ne se démarque pas des autres. Paul ici amène une certaine défense, mais en donnant cette défense-là, et en parlant au cœur de Corinthe, il nous montre c'est quoi un ministère de service qui est percutant. 4 choses qui vont se démarquer, qu'on va regarder ensemble ce matin. Et je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire déjà une première moitié de notre texte dans les versets 1 à 10 ensemble. Donc, il vient de parler du ministère de réconciliation, OK? C'est là qu'il vient nous laisser. On est appelé à ça. C'est le but de Dieu. Ça a passé par le sacrifice de la croix, verset 21. Et là, il dit, puisque nous sommes à l'œuvre avec lui. Là-dedans, là, on travaille ensemble. C'est pas mon travail, c'est notre travail conjoint avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Littéralement, que vous l'accueillez pleinement, puis qu'elle ne reste pas un effet vide chez vous. Et là, il donne la raison pourquoi, en citant les Écritures dans l'Ancien Testament, car il est dit, au moment favorable, je t'exauce. Au jour du salut, le jour où on t'annonce la délivrance, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Sa première exhortation. Ne nous voulons d'aucune façon scandaliser personne pour que notre ministère, notre diaconat, notre service ici, soit sans reproche. Il y avait un souci de bien faire ce qu'il faisait, pour pas que ce soit un scandale, un problème, un obstacle, son ministère. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme ministre de Dieu. Mais comment tu peux te recommander toi-même en ministre de Dieu? Bien, il en fait ici un pédigré. Comment? Bien, par une grande persévérance qu'on a eue devant vous, dans les détresses, dans les contraintes, dans les angoisses qu'on a vécues, les coups, les prisons, les émeutes, c'était pas reposant. Les fatigues, les veilles, s'endormir, les jeûnes, verset 6, et là, il parle d'autres choses ici, les qualités morales. Et dans la pureté, dans la connaissance ou la science, dans la patience, dans la bonté, par l'Esprit Saint, pas par ma capacité ici, pas par mes capacités intrinsèques. Et l'amour sans feinte, sans hypocrisie, une vraie amour authentique. La parole de vérité, la puissance de Dieu par les armes offensives et défensives de la justice. Donc, son équipement chrétien qu'on a reçu. Il dit, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation, comme ou tenu pour imposteur et pourtant véridique, inconnu et pourtant bien connu, moribond et pourtant nous vivons, châtié sans être exécuté, attristé, mais toujours joyeux, pauvre et faisant bien des riches, n'ayant rien, nous qui pourtant possédons tout, ironiquement. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. C'est la parole de Dieu écrite qui nous a été préservée et qui nous est lue ce matin. Que le Seigneur touche nos cœurs. Quatre aspects ou quatre signes d'un service percutant. Le premier, un ministère marqué par la grâce et l'urgence du salut. Tout de suite après nous avoir parlé de ce ministère de réconciliation qui passe par ce que Christ a fait à la croix, le privilège qu'on a et le mandat qu'on a d'être tous ambassadeurs, sans exception, tu deviens un enfant de Dieu, tu as un ministère de réconciliation, tu deviens un enfant de Dieu, tu es un ambassadeur. Pourtant, dans notre monde, ce n'est qu'une petite élite de gens choisis qui sont des ambassadeurs. Une grande réputation, une grande vie d'accomplissement, des hauts faits de guerre, des hauts faits politiques, des hauts faits économiques qui te permettent des bonnes relations, tout à coup d'être placé là, ambassadeur dans un pays. Et pourtant, enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu et tu es nommé diacre, ministre de réconciliation, ambassadeur dans ce monde terrestre, le moment qu'on y est, qui est si court, pour faire connaître ce que Christ a fait et qu'il y a un moyen pour moi d'être réconcilié pour chacun d'entre nous avec le Créateur, qui a pourvu un moyen de rédemption, un moyen de nous racheter notre situation perdue. Tous, on est appelés. Et là, dans ce contexte-là, c'est là que Paul dit, je vous invite à ce que la grâce de Dieu dans votre vie, là, d'avoir reçu cet aspect-là de non-mérite, le fait d'avoir reçu ce cadeau de Dieu, le fait d'avoir pris conscience un jour que tu étais perdu sans Dieu, alors que d'autres à côté s'avancent complètement différents, puis ils ne voient pas, puis ils continuent, puis ils s'en foutent. Puis, mais moi, un jour, j'ai compris que j'étais perdu, qu'il n'y avait pas de sens à ma vie si je n'avais pas une compréhension de comment être sauvé de ma manière d'être comme pécheur, égoïste, centré sur moi, d'avoir des réponses sur la vie après la mort, sur le pourquoi je suis là, d'où je viens, où je m'en vais. C'est quoi ma raison d'être? Et on me fait découvrir ça. C'est une grâce. Quelle grâce! Vous êtes reconnaissant ce matin d'avoir connu Jésus, de savoir d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, ce que Dieu a fait pour vous, de savoir où vous allez et d'avoir une raison d'existence et pas avancer inutilement. Et si tu n'as pas ça ce matin, ne pars pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec Dieu. Parce qu'il dit, à cause de ça, il y a une urgence ici qui est donnée. Il dit, il y a un travail avec Dieu, premièrement, l'importance d'accueillir la grâce et de vraiment l'apprécier, cette grâce-là, et qu'elle ne soit pas en train d'être dans ta vie, mais latente, qu'elle ne fait rien dans ta vie. Ce n'est pas normal que la grâce de Dieu ne fasse rien dans ta vie. Elle produit quelque chose, la grâce de Dieu. Il dit, accueillez-la et laissez-la œuvrer en vous et travaillez avec Dieu. Et là, qu'est-ce qui arrive après ça? Sans oublier qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, les amis. Je vais le répéter, il y a une urgence. Et ici, il prend un texte de l'Ancien Testament pour dire, si tu entends ce message-là, là, arrête de faire comme bien des choses dans ta vie puis de reporter la job à demain. Arrête de savoir que tu devrais faire ça, puis de le laisser sur le comptoir, puis demain, je ferai ça. Moi, j'ai fait ça cette semaine avec ma piscine. Ça fait 3 jours que je lutte avec ma piscine. J'ai dit à mes enfants vendredi que j'allais le faire. Je ne l'ai pas fait. Je l'avais dit aussi jeudi soir que j'allais le faire. Je ne l'ai pas fait. Hier, j'avais une bonne excuse. On partait pour une fête, puis il pleuvait. Il ne faut pas aller faire ta journée à la pluie. Il faut que je la fasse après-midi. Aujourd'hui, c'est la journée de la piscine. Sinon, ça va empirer. Il va faire 22, demain 22, puis là, ça va verdir. Hein? Puis qu'est-ce qui arrive? Ça va être encore plus de job. Mais là, ici, l'urgence est bien plus grande que ma piscine qui va verdir. OK? Puis mon report banal, qui n'est pas grave en fin de compte, parce que c'est moi qui vais le faire de toute façon, que je le fasse demain, après-demain ou dans une semaine, mais que c'est bien vaste. Pas grave, ça. Mais ton salut, l'urgence de te savoir les comptes réglés avec Dieu, c'est pas pareil, les amis. Que la création soit en paix avec son Créateur, quand elle apprend le moyen de faire la paix avec son Créateur, ça, c'est inacceptable. Là, c'est ta vie qui est en jeu. Combien de choses dans ta vie que tu avais une décision à prendre dessus, là, tu l'as reportée, et finalement, tu ne l'as jamais faite. Hein? Combien de choses comme ça qui sont passées dans la vie? Ah, je devrais, je vais le faire. Puis finalement, ça accouche pas. Ça reste là. Mais ici, on parle de l'urgence du salut de ton âme. Et j'aimerais te dire ce matin que si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, que tu n'as pas reconnu le Seigneur Jésus comme le seul sauveur de ta vie et qu'il soit le maître de ta vie, arrête! Arrête de te donner des excuses. Arrête de mettre des barrières. Plie les genoux ce matin, de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est ça que le texte biblique nous dit. Arrête de reporter, parce que demain peut être ta mort. Tu n'as pas de contrôle sur demain. On vit comme si on était éternel. On vit comme si demain allait vraiment être un jour d'élection, mais peut-être tu ne voteras même pas. Mais pourtant, on a tout planifié demain, là. À quelle heure qu'on va aller voter? Évidemment, tous, chacun d'entre vous, allez voter, n'est-ce pas? Comme bon chrétien, on va participer à notre responsabilité. Hein? Du moins, je vous encourage à le faire. Mais il y a une urgence. Pas le seul, l'urgence aussi comme ambassadeur. Il y a une urgence de communiquer le message à ceux dont l'âme se perd et que nous, on tarde pour toutes sortes de raisons à communiquer le salut de Dieu. Remarquez les mots. Maintenant, aujourd'hui, c'est des mots qui n'ont pas de report. C'est là, le moment présent. C'est tout ce que tu as le contrôle dessus, en fait. C'est ce que tu vas faire là, là. Demain, tu n'as pas de contrôle dessus. Ce que tu vas décider maintenant en entendant la parole de Dieu qui t'est annoncée, qui t'est lue, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu reportes dans ta tête présentement avec quelque chose que tu reportes comme décision face à ta relation avec Dieu, face à ta relation avec ta femme, avec ton mari, face à ta relation avec quelqu'un, qui quelque chose que tu devrais régler, puis tu le sais, mais tu le reportes. Tu as encore une bonne excuse. Tu n'en as pas d'excuse ce matin. Le Seigneur Jésus te dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Arrête de reporter ce que Dieu te demande et te met dans ton cœur depuis des semaines, depuis des jours, depuis des mois, et que tu luttes avec. Il y a une urgence. Et nous, on vit banalement, comme si de rien n'était. Anesthésie, sans ressentir réellement l'urgence qui est autour de nous. Tout à coup, quand on est sur le bord de la route, puis il y a des clignotants en arrière, on se pose la question, c'est la police ou c'est l'ambulance d'un? Faut-tu que je me tasse? Mais pourtant, il y a cette urgence-là tout le temps dans notre vie, que la parole de Dieu nous dit, mais on ne vit pas dans cette urgence-là. Distrait. Quelle lutte! Et on va pas en rester là. Paul va amener une coche plus loin dans cette urgence de prendre des décisions et d'arrêter de reporter dans les versets suivants. Je vous rappelle, avant de passer au prochain point, Hébreux, chapitre 4, verset 7. Vous pouvez le noter. Il dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant, en prenant le jour de l'Ancien Testament, ici, en citant un psaume, en disant que David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez-vous pas des raisons pour rester figé là, encore une fois, reporté. Parce que ça peut être mortel. Et pas juste mortel physiquement, mortel dans l'éternité. Ta destinée avec Dieu. Il n'y a pas de niaisage à faire avec ça. On a entendu le beau témoignage il y a deux semaines, hein, de Mme Foster. Le Seigneur était bon. Hein? 38 ans à entendre parler de son frère, puis sa belle-sœur lui parler de l'Évangile. Hein? Il faut persévérer, les amis. Hein? Y a-t-il des 38 ans autour de vous, là? Lâchez pas. Il y a peut-être une Madame Foster autour de vous, là. Il faut juste persévérer, persévérer. Ou ce que là, un jour, était en vouloir se tuer, à vouloir mourir. Et là, ce jour-là, elle était prête à fléchir le genou. Mais serons-nous là? À persévérer, à continuer, à cogner aux portes du ciel pour ses âmes, parce qu'il y a une urgence. Ou est-ce que c'est une cause perdue, elle ou lui? Une chance, Mario. Hein, puis sa femme, Ginette, n'ont pas arrêté de prier pour elle. Et quand il y a eu un signe que là, elle était prête, était mûre, que le fruit était là, qu'est-ce qu'elle a tout de suite fait une démarche avec ses frères et ses sœurs pour prier pour elle, pour faire une démarche, pour que quelqu'un aille la visiter, etc. Il y avait une urgence. Il y a encore une urgence, les amis. Un ministère marqué par la grâce et l'urgence du salut, autant pour l'annoncer que le recevoir. Ne reportons pas, les amis, c'est tellement important. Et donc, ce sont justement ce travail avec, que Paul parle ici, cette grâce de Dieu et une réponse urgente et immédiate qui ont donné à Paul la force et la motivation d'endurer tout ce qu'il a enduré avec les Corinthiens et qui va nous donner ici, dans les prochains versets, justement ce qu'il a vécu. Un ministère marqué aussi par un témoignage crédible. Son comportement a montré qu'il n'était pas là pour un gain. Son comportement dans l'épreuve, sa persévérance, son attitude, tout ce qu'il a enduré, les apparences que les gens lui ont jugées, mais que finalement, il n'était pas comme ça en réalité. Les accusations qui étaient fausses, mais finalement, ceci ou cela. L'apparence de faiblesse d'être pauvre, même le mot « pauvre » utilisé ici dans ces versets-là, décrit un mendiant dans la plus humble des états. Et pourtant, je suis riche, c'est juste mon apparence. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier du royaume éternel. Je suis un diacre, un ministre de la réconciliation. Je suis un ambassadeur du Très-Haut. Paul le sait, son statut. Pourtant, j'ai juste une apparence d'être un mendiant dans la plus humble des états. Et donc, Paul ici, assez intéressant, fait une longue liste qui peut se subdiviser en différents groupes. Mais les premiers versets nous parlent beaucoup de sa patience dans l'épreuve, son endurance quand c'est difficile. Et ça, c'est une des caractéristiques de celui qui apporte la parole et qui a de la crédibilité. Quand c'est difficile, est-ce qu'il peut juste retourner de ses retranchements? Ou il peut avoir un moment de faiblesse, mais qu'il revient et qu'il reconnaît, qu'il verbalise? Ou est-ce qu'il se sauve? Où est-ce qu'il disparaît? Il chiale tout le long de son épreuve. Puis c'est pas édifiant pour personne. Puis finalement, quand il subit des choix de ses décisions, il chiale. L'assumant pas, il est une victime. Non, Paul ici nous décrit un homme qui montre vraiment un caractère chrétien. Remarquez bien ici, il parle de persévérance, détresse, contrainte et angoisse. Ceci étant dit, il y a bien des incroyants aussi qui démontrent dans des moments difficiles de leur vie, vous savez, la persévérance dans leur cancer aussi. Ce n'est pas juste des chrétiens. Hein? Dans ces quelques qualités-là, je connais des gens, personnellement, qui ne sont pas chrétiens. Ils ont pourtant monté dans l'épreuve ce même caractère-là également. Mais Paul va plus loin ici. Il ajoute dans l'épreuve aussi des aspects physiques et émotionnels qu'il a vécu. Parce que regardez bien ici, il parle au verset 5 de coups, de prison, d'émeutes. Oh, on est ailleurs là ici. Non seulement il y a les qualités, ce caractère-là de persévérance, mais il endure des choses extrêmement dures et hostiles de la part de ceux à qui il apporte la parole. Il dit, vous l'avez vu, j'apportais la parole, j'ai fait de la prison, j'apportais de la parole, je me suis fait railler, rire par des gens en public, on m'a traîné, lynché dehors, on m'a déjà lapidé, j'ai vécu toutes sortes de choses, des émeutes contre moi, je paraissais comme si j'étais ci ou ça devant les grands de votre ville, j'étais attaqué par ceux qui vendent des statuettes pour vos temples comme étant un anti puis qui brise le système économique de la ville, etc. Et j'ai vécu tout ça. Non seulement j'ai persévéré, mais ça m'a amené des problèmes. Et dans ces problèmes-là, j'ai mangé des coups. Là. Vous l'avez vu, Paul dit. Et ça donne de la crédibilité à ce que je vous donne comme message pour mon ministère. Plus encore, il parle des sacrifices volontaires qu'il a fait aussi dans ce service-là, en décrivant tout l'épuisement émotionnel et physique qu'il y avait. Il parle ici de la fatigue, les veilles s'endormir, c'est littéralement le mot qui est là, les veilles s'endormir, le jeûne qui s'est imposé des fois parce qu'il vivait dans une certaine pauvreté, il jeûnait pour les âmes, pour le combat spirituel, pour les gens. Et je ne vous ai pas tout raconté ça quand j'étais là, mais c'est ça que j'ai vécu quand j'étais avec vous. Ça, c'est ma carte de recommandation, mon témoignage. Et s'il y a bien une chose que le monde veut, c'est qu'un témoin ait un mauvais témoignage. Et de cette façon-là, en discréditant celui qui apporte la parole, en discréditant celui qui est supposé être le serviteur, le ministre de l'Évangile, en voyant qu'il fait ci, il fait ça, oh, il a de l'air à l'argent, oh, il a dit ça à telle personne, oh, il n'est pas patient, oh, il n'est pas généreux, oh, puis on trouve un moyen de... Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que s'il y a un mauvais témoignage, on va pouvoir aussi minimiser son message. Et ça fait l'affaire du public extérieur qui ne veut rien savoir de Dieu. Mais Paul n'était pas comme ça. Paul avait un bon témoignage, crédible, et ça apportait justement encore plus de dérangement. Parce que le gars apporte l'Évangile, mais il n'y a aucun gain. Comment t'expliques ça comme adversaire? Comme Église? Il ne veut même pas qu'on le paye. Non. Vous ne me payerez pas, je m'organise tout seul. Ouais, mais là, regarde comment tu es habillé, c'est clair, tu as besoin d'une paye, mon grand, là. C'est gênant quand tu te présentes dimanche matin. Tu sais, on aimerait ça de mettre le plus éloquent, le mieux habillé de la gang. C'est le pire de la gang qui se présente en avant. Vous ne me payerez pas, gang. Il se privait. Je ne veux pas ça. Ça pourrait être une occasion de chute. Vous êtes des jeunes chrétiens. Moi, je n'apporte pas l'Évangile pour un gain. OK, là, ça déstabilisait les gens. C'était un sujet de critique. Ça apportait toutes sortes de choses. Paul a montré de la crédibilité dans sa manière de se comporter, dans son témoignage. Et ici, dans ses premiers versets, c'est vraiment son caractère chrétien qui ressort énormément. Après ça, on fait une autre liste un peu plus loin sur ses qualités morales. Et remarquez bien ici, après ça, ça se divise encore là en trois parties, ces qualités morales-là. Il parle de pureté, donc sa chasteté, sa aspect moral, sa gestion de sa sexualité. Il dit « j'étais pur ». La connaissance qu'il transmettait aux gens, la patience puis la bonté. Mais là, au milieu de cette liste-là, par le Saint-Esprit. Fait qu'il n'est pas en train de se vanter que, intrinsèquement, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de patient. Il dit, tout ça se faisait par l'Esprit-Saint. Et il va communiquer, il dit, l'amour sans hypocrisie. Je n'étais pas en train de faire accroire pour vos bonnes faveurs, pour la paye, pour l'apparence, pour le marketing, que je vous aimais. J'avais un amour, puis des gestes d'amour qui étaient sans hypocrisie, littéralement. C'est ça qu'il dit ici. Sans feinte. Ce n'était pas pour apparaître dans le but d'avoir quelque chose. Un amour sans feinte. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que souvent, on peut avoir de l'amour avec des feintes. Vous me suivez? Parce que s'il doit le décrire, cet amour-là, c'est parce que des fois, souvent, on vit de l'amour, mais hypocrite. Un service pour en amener un autre? Non, on ne ferait pas ça, là, mais peut-être un petit peu des fois. Hein? Pour paraître. Et c'est ça l'idée, c'est un amour... Pas pour paraître, pas pour l'apparence. Un amour authentique. Fait que c'est pas pour rien, justement, qu'il dit « par l'Esprit-Saint ». Paul vivait vraiment les fruits de l'Esprit en lui. Il y avait des choses qu'il était capable de reconnaître. Et je fais ça, mais honnêtement, ça vient pas de moi. Et ça, quand tu sais que ça vient pas de toi, là, ça fait du bien à ton âme. Tu sais que c'est pas de toi, puis tu peux pas t'en vanter. Tu sais que c'est Dieu qui a transformé ça. T'étais pas de même auparavant. Puis quand les gens voient ça manifester, ça apporte de la crédibilité au message, au messager et au message que le messager apporte, que les fruits de l'Esprit se manifestent dans sa vie. Il dit, vous l'avez vu, c'est l'Esprit qui le faisait en moi, pas moi intrinsèquement. Et c'est ce qui permettait de faire tout cela. Il continue en parlant de les outils maintenant aussi. Il utilisait les outils que le Seigneur donne aux croyants. Il avait parlé de la connaissance, mais là, il parle ici de la parole de vérité, donc les Écritures, la puissance de Dieu par les âmes offensive et défensive de la justice. Fait que Paul est en train de dire, il dit, mon caractère moral, ma dépendance dans le Saint-Esprit, le fait que j'utilisais les armes que Dieu me donne comme chrétien, mes armes spirituelles, tout ça, là, je l'ai fait devant vous, vous l'avez vu, et tout ça, ça me donne mon accréditation que oui, vous reconnaissez vraiment qui je suis, j'ai pas besoin d'une carte de membre pour ça, vous le savez dans votre cœur, vous m'avez vu à l'œuvre, vous l'avez senti ça. C'est ça que Paul est en train de dire ici. La crédibilité de son témoignage parle fort. Paul va dire plus tard, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. » Ah là là, de même, tu sais, là. Non, je frappe non pas comme battant dans l'air, là. Il dit, « Non, je suis allé avec une stratégie. Je avance parce que je veux gagner, je veux conquérir, mais pas comme le monde veut conquérir. Je veux réussir à amener l'Évangile. Je demande à Dieu de voir des âmes sauvées. Puis à cause de ça, mais j'utilise certaines stratégies, certaines manières pour arriver au bout. » C'est quoi ces stratégies? La grâce de Dieu, je l'ai accueillie, elle me transforme. Je dépends du Saint-Esprit, puis je vois l'Esprit me changer. Il me fait faire des choses que je ne faisais pas avant. Il me transforme. Dieu me donne des outils, je les utilise. C'est pour ça que ma crédibilité, c'est... j'utilise tout ce que Dieu me donne pour arriver où vous me suivez. Il y a plusieurs années, je me suis préparé à traverser l'Arc Saint-Jean. Puis, je devais me préparer pendant toute l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des stratégies, n'est-ce pas? Je me suis entouré d'une bonne collègue qui l'avait faite. On nage ensemble depuis des années. Elle était ma coach. Pris des conseils au niveau nutritif pendant le faire. J'ai passé un an avant ça, à me préparer à trouver des endroits pour m'entraîner pendant que la piscine ici était fermée. J'allais ailleurs pour avoir des heures spécifiques, des types d'entraînement spécifiques. Endurer mon mental, quand ça va faire mal, qu'est-ce que je fais, comment j'endure, aller nager dans les vagues de 6 pieds au lac Saint-Jean avant. Il y avait une préparation, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je veux le terminer. J'avais une collègue qui faisait la même chose que moi, plus jeune. Elle venait de sortir de l'école de police, puis elle voulait traverser le lac Saint-Jean. Elle a fait la même chose que moi. Elle était autant capable que moi de traverser. Elle avait la détermination dans sa tête. Elle l'avait, ça. Mais 3 jours avant que je traverse, elle n'a pas réussi. Pourquoi? Il y avait des armes qui lui manquaient. Et ce n'est pas une critique envers cette amie-là. Bien au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle a mangé toute une volée dans cette affaire-là. Sa nutrition n'était pas bien accompagnée. Sa nutrition était loin d'elle, n'était pas accessible. Tu as besoin. Tu ne peux pas tomber en manque de calories au milieu du lac. Et il n'y avait pas quelqu'un pour la protéger. Moi, j'avais quelqu'un qui me protégeait, qui vérifiait tout le temps. « T'as-tu fait pipi, Joël? » Vous trouvez ça drôle, mais t'as besoin de savoir si tu fais pipi, savoir si t'es hydraté, si ça va bien. T'as-tu mal au dos? T'as-tu si? Il y a quelqu'un qui prenait soin de moi. C'est quoi qu'on prépare le prochain coup? Qui me disait quand est-ce arrêté? Elle n'avait rien de ça qui prenait soin d'elle, qui la protégeait, puis qui disait au conducteur de bateau, « Mets-toi pas là, le vent va pousser l'exhaust dans sa face. » Elle a eu l'exhaust dans sa face 15 kilomètres. Elle a été malade, intoxiquée au gaz 2 mois de maladie, là, d'être amoché. Là. Il n'y avait pas quelqu'un pour la protéger. Il y a des armes dans la stratégie pour réussir qui lui manquaient, que j'ai eues par la grâce de Dieu, qui m'a permis de terminer. Elle avait la même détermination, je vous l'assure. Mais il y avait des éléments qui manquaient pour arriver au bout, que par manque d'expérience, elle n'a pas eu, qui ne lui ont pas permis de terminer. Vous suivez? Et ta nutrition, les amis, ta nutrition spirituelle, comme physique, si tu ne l'as pas, tu vas payer à manier, tu vas flancher. Puis si tu n'as pas de la protection spirituelle, si tu n'as pas quelqu'un qui veille sur toi pour te protéger de l'exhaust, du gaz que le monde veut te faire avaler, t'es intoxiqué, tu finiras pas la course. Et c'est pour ça que Paul va faire une autre exhortation ici. Mais je vous donne cette analogie-là. On a besoin de tout. Et Paul utilise toutes ici les armes qui sont disponibles pour arriver au bout de sa course. Et c'est son point ici. Et il termine par les paradoxes. Il termine par les paradoxes qui sont ici un peu particuliers parce que c'est des aspects contraires. C'est pas dans notre langage aussi naturel. Mais le fait que les valeurs chrétiennes sont le contraire à l'apparence du monde, et là, il va faire une série de paradoxes qu'il va souligner ici. Les dernières parties de sa liste sont comme des antithèses puissantes qu'il donne. Gloire, déshonneur, vérité ou véritable, imposteur, mourant mais vivant. Il donne des contrastes comme ça, des expressions aussi paradoxales, qui présentent la nature du service de Dieu. Chaque fois, 2 termes en opposition servent à décrire les aspects d'une même vocation. Ses avantages, ses gloires, mais de l'autre côté, les difficultés, les rigueurs là-dedans. L'ensemble est un tableau assez juste de ce qu'un individu peut attendre en se consacrant à l'œuvre de Dieu et en se collant à lui, en prenant tous les armes qui sont disponibles pour avoir ce témoignage de crédibilité. Et Paul et Jésus sont 2 beaux exemples de cela. Et je vous les lis. Dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenu ou comme, et peut-être dans vos versions, vous l'avez comme étant. Okay? Le mot 7 fois ici apparaît à l'origine, mais des fois dans nos versions, ils ne paraissent pas, mais tenu pour ou comme ou étant, imposteur et pourtant véridique. On m'a accusé d'être imposteur, mais je suis véridique dans le fond. Ben, parce que je dérangeais. On veut minimiser. Inconnu, les gens, il n'est pas important. Et pourtant, je suis connu de Dieu. Moribond, comme si j'allais mourir, et pourtant, je suis bien vivant. Puis même si tu m'enlèves la vie, je suis encore vivant. Je l'ai la vie éternelle. Tu ne me tueras pas réellement. Puis si tu me tues, c'est parce que Dieu va t'avoir donné la permission. C'est pas parce que tu l'auras décidé. c'est parce que mon temps aura été terminé et il m'amène dans la glorification. Pauvre, mais pourtant, je suis riche. Vous voyez, ici, il est en train de dire les valeurs contradictoires de ce que le monde pense, voit, mais ce qu'il y a en réalité derrière, je vais le dire comme vous. Vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. OK? Et pourtant, possédant tout, pas capable de bien dire, cherchant ses mots, et pourtant, j'ai toutes les paroles de Dieu qui sont disponibles ici. Amen? Et Paul dit, c'est ça ma carte de visite. C'est ça ma carte de recommandation. Vous l'avez vu, mon témoignage crédible devant vous. Et ça devrait être suffisant. Il va une coche plus loin quand même. Un ministère marqué par un cœur ouvert, invitant. On le lit ensemble. Nous sommes librement adressés à vous, Corinthiens. Notre cœur s'est grand ouvert. Tu sais, ouvrir son cœur, c'est toujours un danger d'aimer, puis de se donner, puis que peut-être qu'il n'y aura pas un retour, peut-être qu'il y aura du jugement, peut-être qu'il y aura du mépris. Ouvrir son cœur nous met à risque nos sentiments, nos émotions. Vous n'êtes pas à l'endroit, à l'étroit chez vous, excusez-moi, vous n'êtes pas à l'étroit chez nous. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. « Payez-nous de retour. » C'est drôle comment c'est écrit ici, mais j'aime la traduction un peu choquante. « Payez-nous, donnez-nous le salaire de retour de ce qu'on vous a donné par une réponse. » Il va donner l'image ici. « Je vous parle comme à des enfants. Ouvrez tout grand votre cœur aussi. » J'ai été comme un père envers vous. Mais c'est normal qu'un père qui prend soin, bien, il veut le retour de l'enfant qui va l'aimer, qui va vouloir aussi lui faire confiance, le servir ou l'aider, parce que c'est le retour naturel. Et Paul va parler de cette responsabilité-là, enfant-parent, à d'autres endroits, de respect, d'une dette, etc. Il utilise cette image-là comme un père. Il dit, j'ai été comme un père chez vous. J'ai pris soin, j'ai ouvert mon cœur. Puis là, votre cœur s'est rétréci parce qu'il y a des gens qui accusent mon ministère d'être ci, d'être ça, qui me méprisent. Il y a des plus beaux parleurs qui sont venus, des gens qui viennent de la Judée. Ils n'ont jamais semé. Ils n'ont pas tout fait le travail de fond que j'ai fait. Ils viennent cueillir des conversions qui sont toutes déjà là, là. Puis là, vouloir vous diriger. Moi, j'ai ouvert mon cœur. Moi, j'ai mis mes tripes à la table avec vous autres, là. J'ai eu mal, j'ai pris soin de vous comme un père qui sacrifie, qui saigne pour ses enfants sans regarder le coup, parce que je vous aime. Vous l'avez vu, ce plat, votre cœur s'est rétréci, puis il dit, élargissez-le, réélargissez-le. C'est intéressant, le seul endroit où ce verbe-là, c'est deux fois ici, d'élargir le cœur. Il y a juste trois fois dans le Nouveau Testament. La seule fois qu'il est utilisé, j'étais curieux, j'allais voir, c'est quand on parle des religieux, on dit qu'ils élargissent leur phylactère sur leur manteau. Vous vous rappelez de ça, Jésus qui en parle dans le chapitre 23 de Matthieu? Ils ont sur leur manteau. Puis ça, c'était des franges qu'on rajoutait pour paraître religieux. Il dit, vous ajoutez les religieux, vous ajoutez vous autres. Il dit, non, chrétien, lui, c'est le cœur qui devrait être élargi, pas les phylactères, pas les apparences religieuses. Nous, on aime ça élargir les apparences religieuses. Ça nous fait paraître. Paul, il dit, non, c'est pas ça qui devrait être élargi, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Puis là, votre cœur envers celui qui a été utilisé par Dieu pour vous amener la parole de Dieu avec dévouement, qui a eu un ministère crédible, qui est clair, qui n'était pas pour avoir du profit, pas pour paraître. J'ai été authentique avec le message. Je n'ai pas juste dit quelque chose, mais les bottines ont suivi les babines quand je suis chez vous. Et ça parle. Et là, il leur rappelle tout ça parce qu'ils essaient de regagner leur cœur ici. Et c'est ce qui va les amener aussi même le chapitre suivant à parler de réconciliation dans son ministère. Vraiment important. Paul a été fidèle et les preuves de caractère, de persévérance dans les épreuves le montrent clairement. Et ils méritent la confiance, que leur cœur soit réélargi alors qu'ils s'étaient rétrécis à se fermer, à douter de lui par les attaques qu'il avait vécues, par des gens qui venaient et qui parlaient contre lui. Il était crédible et méritait leur recommandation. Un ministère authentique, crédible, repose sur la cohérence entre les paroles et la vie de la personne. Et je me posais la question en faisant ça, mais qui autour de moi est la personne que je trouve qui incarne le plus ça? Et je vous avoue que j'ai été embêté. Qui autour de moi, j'admire sincèrement. Pas quelqu'un que je ne connais pas à l'autre bout du monde, que je trouve son ministère est extraordinaire, lui a fait ça, puis qui est basé sur les accomplissements, qui authentiquement autour de moi me montrer ce que Paul fait là, puis qui m'inspire. Posez-vous la question. J'ai-tu un modèle, une personne autour de moi qui fait ça, un commun des mortels, qui n'est pas dans mon admiration à cause de ses études, pas parce qu'il y a eu une grande assemblée, pas parce qu'il a amené 5000 personnes au Seigneur, pas parce qu'il a été en mission l'autre bord du monde, pas à cause de ses accomplissements. Son caractère chrétien m'inspire. Je l'ai vu persévérer en situation difficile. J'ai vu que ce n'était pas pour le gain. J'ai vu qu'il y avait la perspective. Je l'ai vu dans son couple, sa famille. Y a-tu quelqu'un autour de toi qui. Puis je me suis posé la question, puis ça m'a vraiment achalé. Puis je l'ai trouvé en chemin, en venant ici, un matin. En chemin, des fois, je ne parle pas beaucoup dans l'auto. Mes enfants me trouvent des fois plate. Je suis dans ma tête. Là. Je suis vraiment pas très, très là émotionnellement. Je suis dans ma tête, en train de réfléchir, méditer, de passer sur le message. Je suis tellement préoccupé en apportant la parole le matin que je suis moins en discussion, disons, dans l'auto. Mais je me suis souvenu. C'est venu clair dans mon esprit. Un homme simple, une femme simple, un couple fidèle, sans prétention, pas de flofla. Je me suis rendu compte, c'est mon grand-papa et ma grand-maman. Gabriel Côte-Noir et Nita. Celui qui, à l'origine, n'est pas mon grand-père biologique de sang, qui de sang et par alliance est mon oncle et ma tante, mais qui ont pris soin de ma mère quand elle n'avait plus de mère puis qu'elle est morte. C'est lui qui a tenu sa main quand il l'a mariée, comme son père, parce que son père n'était pas là. Ah, pourtant, il était vivant, son père, mais il n'était pas là. C'est un alcoolique. C'est lui qui a suivi des convertis d'une ville à l'autre, puis commencé une église en suivant ses convertis. Oh, il y en avait 6 tout à coup à Robertval. Ben, aller parler de Maniwaki, aller à Robertval pour s'occuper de celui-là, puis commencer une église, parce qu'il y en avait 6, là. Puis là, il y en a quelques-uns qui sont allés à Chougamau. Il a commencé une église à Chougamau, il a fait venir un pasteur à Chougamau, John Francis. Puis là, il y en a quelques-uns qui se sont convertis à Alma. Ben, il s'est occupé de faire un de ses padawans dans la gang, un pasteur en formation, puis il l'a amené à devenir pasteur. Puis c'est devenu M. Grette, éventuellement pasteur Alma. Puis ainsi de suite. Puis c'était sans prétention. C'était pas à cause de ses grandes capacités oratoires. Il est allé à l'école biblique, il avait 16 ans, 3 ans à Parole de vie Bethel, l'ancien Bethel, en 51, en 54. Il était chez les frères, prédicateur, en sortant à 19 ans. Il a rencontré une jeune convertie dans l'église depuis 3 mois. J'ai dit, grand-père, pourquoi tu l'as choisi? Ça faisait juste 3 mois. Tu sais pas, c'était... Il savait. Il était convaincu. Puis ils ont été hospitaliers, ils ont pris soin des âmes qui se convertissaient ensemble. Elle sortait des bars, de la boisson, de tout ce qu'elle voulait. Elle voulait rien savoir de l'Évangile. Elle riait de sa sœur qui venait de se convertir jusqu'à temps qu'elle tombe à genoux. Puis ils ont fait ça toute leur vie. Je l'ai vu sur son lit de mort. Laisse-moi partir, chérie. Grand-maman, laisse-moi partir, chérie, c'est correct. Qui prenait soin de son mari. Je l'ai vu prendre soin d'elle pendant 11 ans où ce qu'elle avait, dans une rancune, une colère, une affliction qu'elle avait vécue, fermé son cœur et tombé en dépression en temps. Il l'a aimée. Il a pris soin d'elle. Quand elle n'était plus là, qu'elle était une locumène, littéralement. Et il l'a vu quand elle est ressuscitée de là pour avoir une nouvelle femme qui était dure à reconnaître. Puis un gros ajustement de couple après 50 ans de vie chrétienne parce que là... Elle était quelque chose à gérer, là. Elle évangélisait partout, elle avait des traiteurs. Elle était quelque chose, là, à gérer. Ça, c'est mon modèle. Simple, sans prétention, grand-papa et grand-maman. Pas des gens qui se démarquaient du lot par leur capacité, leur apparence, par leur réussite. Humble financièrement, il a toujours vécu avec des pinottes, des scènes. Il n'a jamais fait le ministère pour l'argent, jamais. 2 fois passé au feu. Je me rappelle l'église, j'avais 3-4 ans de venir visiter l'église en feu, qui avait brûlé, puis là, tous les murs calcinés. Je m'en souviens. Il a laissé cette image-là de fidélité. Un homme simple, une femme simple. Ces héros de la foi crédibles, qui ne sont pas liés avec les prétentions humaines d'accomplissement et glamour. Vous suivez? C'est pas de ça que Paul parle. Et la dernière, et non la moindre, elle est dérangeante, je vous le dis tout de suite. Un ministère marqué par la séparation. Après avoir invité à ouvrir leur cœur, il dit, il faut vous séparer du monde aussi, qui ferme votre cœur, les amis, qui éteint votre cœur. Il y a des choix à faire. Positif, accueillir, élargissez, mais il y a des choses aussi qu'il faut tasser. Et là, il leur dit bien franchement, ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Je comprends que c'est difficile à comprendre, je vais vous l'imaginer, ça ne sera pas long, OK? Quelque association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Béliar? Ici, le mot veut dire des vauriens dans l'Ancien Testament, ceux qui ont les valeurs du diable, finalement, littéralement. Quelle réaction entre le croyant et l'incroyant? Ils n'ont rien en commun. Attelez-vous pas ensemble à faire des unions, des projets ensemble avec le monde. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même ADN. C'est voué à l'échec. Et là, y a-t-il une commune entre le temple de Dieu, que vous êtes devenu comme enfant de Dieu, comme église, puis les idoles? Il n'y a rien. Car nous sommes, nous, le temple de Dieu. Tu es, en tant qu'enfant de Dieu, devenu le temple de Dieu. Dieu réside en toi comme enfant. Comme Dieu l'a dit, au milieu d'eux. Là, il cite ici l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 26. « Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai. » Il dit, tu sais, « J'habiterai au milieu de mon peuple. » C'est pour ça qu'il fallait qu'ils s'aient séparés des autres nations. Et vous, vous êtes le temple de Dieu. J'habite en vous. Vous devez être séparés des gens autour de vous. Il dit, « Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Sortez donc d'entre ces gens-là. Mettez-vous à l'écart, ou sanctifiez-vous ou séparez-vous, littéralement ici, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur et moi, je vous accueillerai. » Il termine, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain. » Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Il utilise une image d'attelage commun dans l'Ancien Testament. Et il y avait une loi très claire que tu ne peux pas mettre une brebis avec un bœuf. Tu peux mettre un animal d'une différente ADN avec un autre parce que ça ne marchera pas bien. Ce n'est pas la manière de faire. Et il y avait une loi dans l'Ancien Testament pour ça. Et il est en train de leur dire, vous, comme chrétiens, attelez-vous pas avec quelqu'un en vous mettant dans une association, que ce soit par mariage, par affaire, toutes sortes de manières de s'associer, alors que votre ADN est complètement différent. Et c'est ce que Paul dit dans deux. Il dit, vous avez la nature divine en vous, la référence que je mets ici dans Pierre. Vous avez un autre ADN. C'est ce qui vous permet de grandir, de changer, de vivre ce que vous vivez. Puis les caractéristiques crédibles que Paul a parlé, c'est un nouvel ADN. Donc, tu ne peux pas te mettre en attelage avec quelqu'un qui n'est pas de la même espèce. On s'entend? Qui a la même ADN. Et il y avait des lois dans l'Ancien Testament liées au bon sens de tout ça et le manque de bon sens aussi de faire le contraire. Et là, il va poser 5 questions rhétoriques. Quel rapport y a-t-il ça avec ça? Quel rapport y a-t-il ça avec ça? Des questions qui, évidemment, veulent nous faire réfléchir. La réponse est là, il n'y a aucun rapport. C'est une question qui n'a pas pour but qu'on réponde, mais nous faire réfléchir. Mais en plus de ça, il utilise des contraires, des contrastes ici. Lumière, évidemment, hein, lumière, puis les ténèbres. Idole, temple de Dieu, des contraires pour montrer la folie de tout ça, que ça n'a pas de sens. Mais il utilise aussi, et c'est celui qui m'accroche le plus, des mots associatifs. Remarquez bien, à chaque ligne, il va utiliser différents mots associatifs. Certains qui sont utilisés seulement ici dans le Nouveau Testament, qui sont uniques. Il va parler, quelle association, premièrement? C'est juste ici dans le Nouveau Testament. Quelle communion? Ça, on le voit ailleurs. Quelle harmonie? Là, ici, c'est quelque chose de musical qui est utilisé ici. C'est un mot unique, mais qui a d'autres racines pas loin dans les Écritures. Musical, c'est-à-dire, ben là, t'as deux harmonies différentes. T'as des notes qui se fitent pas ensemble, qui ne fitent pas dans la même bande. Mais comment tu vas faire ça? C'est ça le mot ici qui est en train de dire. Quelle part? Portion. Et c'est entre autres, on va parler de partager un héritage. C'est le mot qu'on utiliserait pour partager un héritage. Mais quelle part que tu as avec eux? Quel partage d'héritage que tu as avec eux autres? Ou encore, quel accord? 5 mots associatifs pour dire, « Hey, ça ne marche pas pour le chrétien de dire une chose puis vivre autre chose. » Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas diminuer ton témoignage. Tu vas diminuer la voix de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on dit? Le sel perd sa saveur parce que ça contamine. Ça contamine. Inévitablement, le compromis, la mauvaise union est toujours contagieuse. Tu ne peux pas te toucher de la maladie et pas penser que tu ne vas pas être affecté par la maladie. Et c'est pour ça qu'il dit, distancez-vous, touchez pas. Et dans l'Ancien Testament, on avait des mesures protectrices pour parler de ne pas toucher des corps morts, sinon tu devenais impur, de ne pas toucher certaines choses, tu devenais impur. Le peuple était dit aussi, allez pas prendre les mœurs du voisin à côté. Vous allez commencer à vivre comme eux si vous vous associez à eux. Qu'est-ce que le peuple a fait? Il n'a pas obéi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, l'idolâtrie est rendue dans le peuple. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le peuple a été jugé. Ils ont passé à côté des bénédictions que Dieu avait pour eux parce qu'ils étaient contaminés. La contagion va se faire. Inévitablement. Et là, il donne un commandement. Il dit, c'est les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, mon argument, c'est qu'on a deux natures complètement. On ne peut pas s'associer. Deuxièmement, la Bible, l'Ancien Testament, comme le Nouveau dit, séparez-vous, sortez, il y a un ordre. Tu veux grandir, avoir un témoignage crédible, tu veux élargir ton cœur, bien, il va falloir que tu fasses des décisions ailleurs aussi pour élargir ton cœur. Il va falloir que tu te sépares de des choses. Quand tu fais de la place pour quelque chose, il y a des choses aussi qu'il faut qu'ils sortent, les amis. Tu veux élargir, bien, il faut sortir, il faut se séparer. Et là, quand on parle de séparer ici, on parle-tu de s'isoler du monde? Hein? C'est tout ça qu'on parle. La séparation ici, là, c'est pas l'isolement, empêchant même la communication, la relation sociale avec la personne qui ne croit pas comme moi. C'est pas ça l'idée ici. Mais de l'autre côté, en réaction à l'extrême séparation pharisianique, par exemple, que les Juifs avaient, bien, d'autres abattent les murs, puis disent, ah, ben, nous, on ne veut pas être comme les religieux, puis ils coupent tout, puis ils n'ont pas de relation. Oui, mais ça, c'est l'excès, c'est pas de Dieu non plus. Fait que là, à cause de ça, on va être super permissif. T'sais? Ah, moi, je ne serais pas légaliste. Fait que là, finalement, je vais tolérer n'importe quoi. Ah, Jésus tolérait tout. Et là, on met ça sur le dos de Jésus. Il est avec les pécheurs. Puis... Oui, mais Jésus ne s'est pas marié avec une pécheresse. Hein? Puis il n'a pas dit non plus que c'était bien. Il les a identifiés comme étant malades. Il le dit. Il n'a pas fait à croire que. Mais eux étaient ouverts. Les religieux n'étaient pas ouverts, eux autres, dans une extrême séparation, sans aucun intérêt pour le monde qui périssait autour d'eux. Juste prêts pour condamner une couche de plus, à rallonger un phylactère, mais pas rallonger leur cœur, élargir leur cœur. Et c'est ça notre défi. C'est ça notre défi. Paul parle d'une séparation spirituelle et non d'un isolement social, mais d'une distinction dans les valeurs et les priorités fondées sur l'Évangile et la nouvelle relation avec Dieu. Et donc, les trois raisons sont assez simples. La nature divine qui est en nous fait qu'on devrait vivre distinct, qu'on ne peut pas s'associer à. Il y a un commandement qui nous dit « sortez, séparez-vous ». Et de plus, il nous dit aussi qu'il y a un gain important, c'est qu'il y a une promesse, c'est que quand tu vas faire ça, tu vas grandir. Pourquoi tu vas élargir ton cœur? Ton cœur va être élargi parce que ta relation avec Dieu va être approfondie. C'est ça qu'on nous dit. Les choix que tu vas faire, Dieu va les bénir, mon ami. Les choix que tu vas faire, Dieu a promis que relationnellement, il va aller une coche plus loin avec toi, une plus grande intimité, une plus grande puissance dans ta vie, un plus grand progrès dans la sanctification. Et il parle de relations profondes ici, en citant encore là ici l'Ancien Testament, de relations père-fils, père-fille, que Dieu va avoir avec chacun de nous. Mais il faut que tu te sépares pour bénéficier et profiter de ça. Tu fais de la place et Dieu a plus de place. Et parce que Dieu a plus de place, ton cœur s'élargit. Est-ce que ton cœur est étouffé dernièrement? Il y a des choses qui étouffent, qui limitent dans ta vie. Il y a cette illustration-là, assez intéressante, de la rivière brûlée qui se trouve entre le Wisconsin et le Michigan. Et quand la rivière brûlée avance, elle est bleue, elle est belle, et elle rencontre une autre rivière, la rivière Iron. Et elle est boueuse. Et quand les deux se joignent ensemble, même sur Google Maps, tu peux le voir, le changement de couleur qui se fait, parce que même quand ces deux se rencontrent-là, aussi fortes qu'ils peuvent être, ils ne courront pas chacun à côté de l'autre. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont merger ensemble, je sais que ça ne se dit pas en français, là, mais ils vont se fusionner ensemble et ça va devenir boueux. Elle va perdre sa clarté, n'est-ce pas? Et c'est toujours le cas. De même, le chrétien qui est en relation étroite avec le mal, avec le compromis, dans sa foi, en union avec quelqu'un qui a un autre ADN que lui, être partenaire avec un incroyant en affaires, en mariage, amène des contraires à la volonté de Dieu. Demeurer pur, amener l'incroyant à changer est aussi difficile que d'essayer de maintenir séparés dans un même lit, dans les mêmes associations, ou de même garder séparé la rivière brûlée de la rivière Aaron dans un même allée. Ça n'arrivera pas. Ça va toujours communiquer et se contaminer. Toujours. C'est un fait naturel de la vie, et que les Écritures nous invitent à ne pas minimiser. Comment je mets tout ça en pratique? Accueille la grâce de Dieu. Maintenant, pas demain. Dieu te demande quelque chose ce matin, te reporter, arrête de reporter ce matin. Accueille. Accueille pour partager ta foi, accueille pour recevoir la foi en Jésus-Christ, mais arrête de reporter. C'est la première chose, il y a une urgence. Et peut-être c'est là que Dieu te parle ce matin, d'arrêter de reporter. Peut-être c'est une décision autre que le salut que tu reportes, mais qui dit arrête de reporter. Il y a une urgence. Tu n'as pas de contrôle sur demain, juste sur qu'est-ce que tu vas faire là. Pas à midi, là. Dans cette salle, à ce moment-là que Dieu te parle. Deuxièmement, assume un ministère crédible. Seigneur, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Jésus, mais je peux vivre comme eux, dépendant de cet esprit. Amène-moi, Seigneur, à grandir, à persévérer dans l'épreuve, à avoir ce caractère chrétien paradoxal que juste l'Esprit de Dieu, à dépendre de... Seigneur, fais-le en moi. Je ne veux pas paraître, je ne veux pas me vanter, je veux juste être tout ce que tu promets que je peux être en toi en utilisant tous les outils que tu me donnes, les outils d'armes, l'Esprit Saint, les choses que tu changes en moi en élargissant mon cœur. Je vais ouvrir mon cœur. Peut-être ton cœur s'est fermé dans les dernières années dans ton service parce que tu as été blessé dans l'Église. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a déçu. Dans la famille, tu as fermé ton cœur parce qu'il y a des gens dans la famille qui n'ont pas été fins avec toi. Puis le Seigneur dit, tu me fais-tu assez confiance pour ouvrir ton cœur, laisser de la place? Je sais que ça te met à risque, mais moi, je peux le faire en toi parce que tu vas avoir plus d'impact avec un cœur ouvert que si tu te protèges. Laisse-moi être ton protecteur parce que tu as peur de tes émotions, de faire confiance. Dans l'Église, comme ailleurs, dans une relation en particulier peut-être, que le Seigneur te met au défi ce matin. Ou encore, tu réalises ce matin que tu es dans un attelage. Tu es dans une association, une union, une harmonie avec quelqu'un que tu ne devrais pas. Ou peut-être avec quelque chose, avec un péché. Et le Seigneur te dit, arrête de te conter des histoires. Arrête de te conter des histoires. Et des histoires comment? Des histoires comme un monsieur qui s'appelle Marius Helms. Rappelez-vous de ce nom-là. Marius Helms. Il s'est conté des histoires, lui. C'est quoi son histoire qu'il s'est contée? En Afrique du Sud, Elmer a vécu une relation tout à fait spéciale et unique avec un hippopotame. Pendant 5 ans, il y avait un hippopotame qui a trouvé comme son chien de, comme un chien de compagnie, comme un petit chat dans sa cour. Et les gens, ils disaient, voyons donc, Elmer, tu peux pas faire ça, c'est un animal sauvage, c'est un des plus dangereux. 500 personnes par année meurent en Afrique, tuées par des hippopotames. Nous, on s'en rend pas compte ici, là, mais... Et lui, il disait, c'est comme un fils pour moi, Humphrey, il l'a appelé. Humphrey. Puis tu vois des vidéos de Humphrey, puis lui, puis il chevauchait, tu le vois dans l'eau sur son dos, se baigner. Sa femme aussi était mal à l'aise des fois, il avait déjà rué, fait des affaires particulières, rué, manière de parler pas comme un cheval, là, mais rué quelqu'un littéralement, attaqué, il avait fait des comportements sauvages. Je dis, ça va s'en virer contre toi. Il écoutait pas, lui, il allait maîtriser. Il s'est comme, il se vantait, il avait une grande fierté. Pendant 6 ans de sa vie, il a fait ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé en 2011? Ben, l'inévitable. À un moment donné, son corps était trouvé dans l'eau, mâché, puis mort. Il avait été averti, mais il était convaincu qu'il pouvait le dresser comme n'importe quel animal, en faire un animal domestique d'un animal sauvage, et lui allait maîtriser la bête dans son arrogance. Et son arrogance l'a amené où? Pourquoi? Le pouvoir dévastateur du péché qu'on minimise et qu'on pense qu'on est capable de vivre avec un peu de péché puis de le dompter, de le garder sous contrôle. Mais la bête va toujours revenir à m'amener, te dominer. Toujours. Et Elmer l'a payé, je veux dire Marius Helms, l'a payé de sa vie. L'orgueil pousse les gens à croire qu'ils peuvent vivre pour Dieu et vivre dans le péché. Et c'est pas trop grave, Dieu est rempli de grâce. Et minimiser alors que tranquillement ta chandelle s'éteint, alors que tranquillement le goût du sel se perd. Mais subtilement, et à un moment donné, ta vie peut en être perdue. Quelle arrogance de notre part. Si vous voulez être pieux, vous devez tenir à l'écart aussi le péché dans votre vie quand Dieu le voit et dit « sortez, séparez ». Dieu est clair, mais on n'aime pas les impératifs. On n'aime pas se faire dire ça. C'est tranchant, c'est dérangeant. Mais les amis, c'est parce que si je ne sors pas ça, il n'y aura pas de place pour autre chose. Il n'y aura pas de progrès. Il n'y aura pas ce témoignage crédible de l'Évangile comme ambassadeur. Ça affecte ton service et l'efficacité. Comme un tourbillon, le péché a un puissant effet de vortex. Avant même de nous en rendre compte, nous nous retrouvons dépassés. Et il est beaucoup plus difficile d'en sortir que d'y entrer. Entrer, c'est facile. Prions ensemble. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir et terminer un dernier chant. Prions ensemble que le Seigneur nous amène dans une sincère urgence ce matin à décider et arrêter de reporter. Seigneur, ce matin, convainc nos cœurs Convainc nos cœurs, Seigneur, dans le service que tu nous appelles à faire. Certains, ce matin, reportent le service. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, je te demande que les cœurs soient repentants ce matin. Arrêtez de me donner des excuses pour ne pas faire ce que tu mets sur mon cœur. D'arrêter de trouver des manières de reporter à demain. Peut-être ce matin, quelqu'un reporte et a entendu l'Évangile depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Seigneur, ce matin, je te prie dans le nom de Jésus que ce cœur fléchisse les genoux. Qu'il arrête de s'excuser, de donner des excuses et qu'il dit ce matin, c'est correct, c'est assez. Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon sauveur. Te demander pardon pour mes péchés. Sois le maître de ma vie. Je crois en ton Fils Jésus. Je regrette, je reconnais qui il est. Sois le maître de ma vie. Fais de moi ton fils, ta fille, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Peut-être ce matin, c'est un péché qu'on excuse, Seigneur. La conviction est là, mais le vouloir n'est pas là. Il y a de l'orgueil qui excuse, qui minimise. Oh Seigneur, on te demande pardon ce matin. On te demande pardon, Seigneur. Quelle arrogance de ma part. De donner tous ces raisonnements faux pour me laisser dans mon péché, de laisser sur la ligne, sur la clôture, dans le compromis, tranquillement à perdre la saveur. Puis je ne le vois même pas. Je me conte des histoires comme Marius que je suis capable de dompter la bête. Pardon, Seigneur. Je reconnais mon erreur et je veux te céder ce péché dans ma vie. Prends toute la place. Je te demande pardon, Seigneur. Tasse-le et prends la place qui t'a été enlevé dans ma vie depuis un certain temps et qui amène la stagnation, qui amène la perte de joie que Paul avait même dans la difficulté. Il gardait sa joie, même s'il y avait de la tristesse. Seigneur, je veux garder cette joie et j'ai besoin de plus de toi. Élargis mon cœur, Seigneur, auprès de mes frères et mes sœurs. Enlève ces choses qui me bloquent, qui rendent mon cœur sclérosé, figé dans le gras de la dureté du cœur naturel lorsqu'on se protège nous-mêmes plutôt que de te laisser. Toi, Seigneur, ô Père Céleste, être mon protecteur, mon défenseur et celui qui élargit mon cœur parce que tu prends toute la place, parce que ça va de plus en plus en profondeur de te faire confiance dans mes épreuves et de plus en plus proche de qui tu es, de me sentir aimé. Merci Seigneur pour ta parole ce matin qui nous parle, qui nous exhorte et accorde-nous d'être obéissants. Et je te le demande Seigneur dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.